à Saint-Jeudeur.
Dernier cours de la philosophie du vivant. Il y a encore beaucoup de choses à dire, vous voyez. Heureusement qu'on continuera au mois d'octobre. Ceux qui ont le courage, lisez attentivement ce livre du Péripsuchès d'Aristote, en notant ce que vous ne comprenez pas, en notant ce qui vous intéresse. C'est un livre extrêmement riche, difficile à lire, bien que ce soit le plus facile avec l'éthique. C'est le mieux écrit. Alors, on a essayé de voir comment Aristote regarde les sensations. Comment il essaie d'en faire la philosophie, c'est-à-dire de connaître ce qui caractérise la sensation. Comment la sensation est une connaissance très proche, impliquant le corps, très proche de tout le milieu dans lequel on est, et dépendant de ce milieu. Donc, j'allais dire, il se modifie, nos sensations se modifient en fonction du milieu dans lequel on est. Le monde physique dans lequel on est. Comment les sensations impliquent une connaissance véritable d'une qualité qu'on appelle les sensibles propres et les sensibles communs. Petite division dont nous avons vu l'importance. Les sensibles propres, ceux qui relèvent d'un sens unique, les sensibles communs qui sont connaissables par d'autres sens. Mais il faut bien saisir qu'il s'agit d'une connaissance qu'on saisit de l'intérieur. Quand je vous vois regardant, non pas au point de vue de la vie religieuse, mais regardant, je ne sais pas ce que vous voyez. Je peux présumer, mais je ne sais pas. Quand je vois une vache regardant un train qui passe, première fois le TGV est passé, c'était pas inscrit dans sa mémoire. Qu'est-ce que la vache connaît? Je n'en sais rien. Un chien qui vous regarde avec des signes d'extraordinaire affection. Vous dites, oh, ce qu'il m'aime, ce chien. Je n'en sais rien. Il donne des signes d'affection, des signes de fidélité. Qu'est-ce qu'il connaît? Au fond, je ne connais que ma sensation. Connaissance singulière, tout à fait singulière la sensation. Je projette sur mon voisin les sensations que j'ai. Étant donné que nous avons quand même en commun un langage, nous avons quand même en commun certaines réactions, certains gestes qui font qu'on se devine. Mais la sensation, je ne peux la saisir vraiment que de l'intérieur. Et cet intérieur est lié au monde biologique, est lié à mon corps. C'est grâce aux sensations que mon corps réagit, plus ou moins, en face du milieu dans lequel je me trouve. Les sensations sont donc à la fois internes et externes. font le pont entre tout ce qui n'est pas moi, tout ce qui m'est lié et tout ce qui est moi. Alors pourquoi, ce sera la grande question du philosophe, pourquoi cinq sensations? Mais ça, ce serait presque une question de sagesse, ayant, parce qu'autrement, je constate, je ne peux pas dire plus. Est-ce que vous pouvez préciser le pourquoi des cinq sensations? Avec l'âme spirituelle qui informe un corps, et qui, en tant que spirituel, a une puissance spirituelle, l'intelligence, la capacité d'aimer. La volonté. Est-ce que les cinq sensations sont en raison du corps, puisque toutes les sensations ont un organe biologique? C'est vrai. Les cinq ont un organe biologique distinct en vue de saisir telle ou telle qualité de l'univers. C'est par la sensation que l'univers est tout proche, que l'univers est présent. C'est par là. Alors pourquoi ces cinq ouvertures sur l'univers, cinq fenêtres? Parce que si j'enferme quelques-unes, quelqu'un qui subitement perd l'odorat. Il y a tout un contact avec l'univers qui disparaît. Quelqu'un qui perd la vue, tout un contact avec l'univers. Quelqu'un qui perd le goût, l'ouïe, s'enferme. C'est vraiment les contacts particuliers que j'ai avec l'univers. Je subis l'univers par les cinq sensations. Je ne peux pas dire que par les sensations, je transforme l'univers. Quand vous regardez l'écarlate d'une rose, ça ne la gêne pas du tout. Elle n'est pas écarlate parce que vous la regardez. Le visage d'une personne, c'est différent, n'est-ce pas? Mais vous n'influencez pas le monde physique. C'est le monde physique qui vous influence. C'est pour ça que dans ce point de vue des sensations, le point de vue passif, réceptif, on pâtit. Il y a un pattern qui est très fort. Il y a un aspect de réceptivité. Les sensations nous rendent réceptifs à certaines influences de l'extérieur. Mais je suis en contact direct. Alors, vous voyez, la question qui se pose après avoir analysé rapidement ces cinq sensations dans leur diversité, on peut se poser la question, pourquoi cinq? Rien n'est laissé au hasard. Hein? Rien. Pourquoi cinq? En raison de l'univers ou en raison de l'intelligence? Nous avons effleuré le problème, qui est un problème critique. Comment les cinq grandes interrogations de l'intelligence humaine semblent bien être en connexion avec les cinq sensations? Parce que les cinq interrogations que je pose, c'est les interrogations d'une intelligence qui se sert du corps. Se sert des sensations. Je me sers constamment de mes sensations. goût, vision. Je m'en sers tout le temps. Je m'en sers tellement que j'ai même plus l'impression que je m'en sers. Tellement en communion profonde. Mon intelligence est présente dans mes sensations. Ça, c'est sûr. Alors là, il y a une question que sans doute on ne pourra traiter qu'au terme, dans un jugement de sagesse. Je ne crois pas qu'on puisse traiter là, ici. Pourquoi ça? Dans l'univers, il y a de fait 5 sensibles propres. Qui sont nécessaires pour actuer ces 5 réceptivités que je possède en moi. Je crois qu'on peut pas, on peut constater. Alors, dans une vision de sagesse, c'est-à-dire, quand j'aurai découvert l'existence de Dieu, que je verrai que mon âme spirituelle est créée directement par Dieu dans mon corps, je saurai que cette âme spirituelle est pensée par une sagesse, et que cette âme spirituelle respire par les sensations. Oui, quelqu'un comme Leibniz dira, il y a une harmonie. Oui, une harmonie, je la constate. Je crois que je peux aller plus loin. Je peux essayer de comprendre comment cette âme spirituelle qui implique intelligence et capacité d'aimer, si elle est liée à un corps, si elle informe un corps, elle doit se servir de ce corps en vue de l'intelligence et en vue de l'amour. Si elle se sert de ce corps en vue de l'intelligence et en vue de l'amour, il doit donc y avoir une certaine raison pour laquelle il y a ces 5 sensations. C'est pas laissé au hasard. Mes sensations humaines sont en vue du développement de mon intelligence. Mes sensations humaines sont en vue du développement de ma capacité d'aimer. Parce que ça me met en contact avec un bien sensible. Les sensibles propres peuvent mettre en contact avec un bien sensible, avec des biens sensibles. Ça, c'est vrai, dans l'univers, il y a des choses bonnes. Il y a des choses bonnes à manger, l'aliment. Il faut bien que je détecte ça. Un petit animal, il les détecte facilement. Il va aussitôt les détecter, ces choses bonnes à manger. Et ces choses mauvaises, les bons champignons et les mauvais champignons. Il faut pouvoir les détecter, ça. Il va me dire, oui, il me détecte par des raisonnements. C'est donc l'intelligence qui fait... Oui, parce que mes sensations sont faibles. Autrement, je sentirai tout de suite ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Faites pas l'expérience, hein. Parce que vos sens ne sont plus assez vigoureux pour faire ce partage. Alors on est obligé de se servir de l'intelligence et de la raison. Mais je crois que si nos sensations seraient suffisamment fortes, on pourrait détecter tout de suite. Les animaux le font. Je sais bien que les animaux ont des sens quelquefois beaucoup plus développés que nous. Nous avons des sens, nous, relatifs à l'intelligence et relatifs à l'amour. Alors, je vois tout de suite qu'il y a des sens plus relatifs à la connaissance. La vision, l'ouïe. C'est des sens les plus ordonnés à l'aspect intellectuel. Tandis que le toucher, le toucher aussi, fondamentalement, il est touché, il est ordonné à l'intelligence. Mais le toucher est beaucoup plus le sens de la vie. Et l'odorat et le goût sont des sens beaucoup plus affectifs. Vous voyez, le toucher, c'est très curieux comme sens fondamental. Il est relié à l'intelligence grâce au jugement d'existence. Je touche ça. dit que ça existe. Tant que vous le voyez, vous avez peur d'hallucinations. Puis vous ne voyez pas très bien ce que c'est. Il y a des trompe-l'œil admirables. Il y a des trompes touchées beaucoup moins forts. Beaucoup moins forts. Beaucoup plus difficile de tromper le toucher. Et les hallucinations du toucher, demandez ça aux psychanalystes, les hallucinations du toucher, c'est très grave. Ça prouve que l'imaginaire a déjà emporté tous vos sensations. Parce que vos sensations vous tournent vers le monde extérieur. L'imagination vous tourne vers un monde intérieur. Et il y a une lutte constante au point de vue psychologique, hein. L'équilibre de notre psychologie, il est entre les sensations et l'imaginaire, constant. Est-ce que vous êtes suffisamment éveillé pour discerner les sensations de l'imaginaire ? Quand vous commencez à être très fatigué, vous les confondez. D'où votre irascibilité extraordinaire. Notre affectivité est beaucoup plus éveillée le soir que le matin. Le matin, c'est plus la vue, c'est plus l'ouïe, beaucoup plus. Et le soir, c'est plus l'odorat, le goût et le toucher aussi. C'est curieux, ce partage qu'il y a dans les sens du côté affectif et du côté intellectuel. Ça, c'est net. Bon. Après avoir détecté les sensibles propres de chacun des sens, compris qu'il y a là quelque chose de spécial, nous pouvons maintenant détecter qu'est-ce qu'il y a de commun. C'est intéressant de voir les sensibles communs qui font des liens au niveau sensible avec nos divers sens. Les sensibles communs qui sont cinq. Alors c'est là aussi, il y a une petite question intéressante à se poser, puisque les sensibles propres et les sensibles communs. Et il y a cinq sensibles communs, comme il y a cinq sensibles propres. Alors, est-ce qu'il y a des correspondances entre les deux ? Y a-t-il des sensibles communs qui sont plus pour tel sensible propre ? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Toujours pour creuser davantage ce que représente la sensation. Donc, je vous rappelle les sensibles communs, la grandeur, le continu, le nombre, le mouvement, le repos, voyez, grandeur et continu, ça revient ensemble. Le mouvement, le repos, et puis la figura. La figura traduisait la physionomie, pas uniquement la figure. Alors voyez les sensibles, je ne le fais pas ici, nous n'avons pas le temps, mais c'est intéressant à faire. Avoir les cinq sensibles propres et mettre des correspondances avec tout puisque tout sensible propre a toujours un sensible commun, toujours. Vous n'avez jamais un sensible propre à l'état pur. C'est comme ça que vous pouvez mesurer votre vision, voir si vous êtes myope ou pas. Vous pouvez mesurer votre ouïe. Les mesures du goût et de l'odorat se font beaucoup moins. Et les mesures du toucher aussi. Quelle est la qualité de votre toucher ? Parce que c'est très différent. Hein. Nous avons des touchers très très différents les uns des autres. Il y a des gens qui ressentent beaucoup plus de choses. L'acuité de l'ouïe, oui, ça peut se mesurer. La pénétration de la vue, ça peut se mesurer. Cela provient de quoi ? Provient de l'organe. l'organe physique, un phénomène de vieillissement de l'organe. C'est pas de l'âme. L'âme ne vieillit pas. Mais l'âme par l'organe vieillit. Ça, c'est sûr. C'est l'âme sensible qui vieillit. C'est l'âme végétative. Si vous avez pris trop de bons repas pendant votre vie, votre âme végétative crie. Elle s'arrête. N'est-ce pas ? Il y a des choses que vous ne pouvez plus supporter. L'âme comme telle ne vieillit pas, mais l'âme liée au corps vieillit. Elle a un âge. Et l'organe de nos diverses sensations aussi. Alors, je constate cette chose curieuse que les poètes aiment de faire des analogies entre les diverses sensations. Comment se fait-il que un bleu peut évoquer, un bleu qui est la vision, peut évoquer tel ou tel son. Chez certaines personnes, c'est très net. Comment il peut y avoir une évocation de la vision et du toucher? Vous voyez, quand Aristote dit ça, ce qu'on avait vu la dernière fois, où il montre très bien que lorsqu'il s'agit, le sapide est une sorte de tangible. Et c'est pour cette raison qu'il n'est pas senti à travers un milieu corporel étranger. De plus, le corps qui contient la saveur, le sapide, est dans l'humide, comme dans sa matière. Or, l'humide est une sorte de tangible. Et puis lorsqu'il montre la difficulté de nommer certains sens, il fait lui-même des analogies. L'homme sent mal les odeurs et ne perçoit aucun objet odorant sans les sensations de douleur et de plaisir, ce qui prouve que son organe sensoriel manque d'acuité. C'est ainsi probablement que les animaux aux yeux durs perçoivent les couleurs et ne distinguent leurs différences que par la frayeur. Il semble qu'il y ait ici une analogie entre l'odorat et le goût, entre les espèces de saveurs et celles d'odeur. Lui-même établit une analogie. Comment peut-on établir une analogie? Donc il y a les sensibles propres qui sont divers, hein, qui ont une diversité absolue. Et comment ces sensibles propres, grâce aux sensibles communs, ont quelque chose de commun? Mais il y a quelque chose de plus. Comment pouvons-nous faire des analogies à l'intérieur même de ces diversités? Établir une analogie entre ce que souligne ici Aristote entre l'odorat et le goût. Comment établir une analogie entre les deux alors qu'il y a une diversité absolue, une diversité entre les deux, entre les espèces de saveurs et les espèces d'odeurs? Comment établir ça? Donc ça, c'est le premier problème. Parce que ça existe. Il y a des analogies qu'on établit spontanément. Et puis, il y a le problème aussi de la conscience. Comment ai-je conscience de voir? Comment ai-je conscience de toucher? Est-ce que cette conscience provient de l'intelligence ou provient d'une autre puissance? Parce que la sensation comme telle ne peut pas avoir conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience ? La conscience implique une espèce de réflexion sur la connaissance elle-même qu'on a. Il faut réfléchir en même temps qu'on connaît. Et quand je connais, quand je parle, j'ai conscience de connaître et de parler. Quand je dis une bêtise en parlant rapidement, sous l'effet de la passion, j'ai conscience de dire une bêtise. Il me dit pas, oh, j'aurais pas dû dire ça. J'ai conscience de ça. Sauf les gaffeurs. Les gaffeurs n'ont jamais conscience de faire une gaffe. C'est pour ça qu'ils s'en font. Parce que s'ils avaient conscience de dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire, petit à petit, ils se corrigeraient. Parce que le vrai gaffeur fait ça naïvement, mais de façon admirable. Alors quand il parle à des personnes dignes et respectueuses, et qu'on est à côté, on ne sait pas où se mettre. Surtout que ça continue, on dit non. J'ai conscience de penser. Pourquoi ? Parce que ma connaissance intellectuelle est spirituelle, immatérielle. Elle n'a pas d'organe. Alors, je peux avoir cette auto-réflexion, cette introspection. J'ai conscience d'aimer spirituellement. J'ai conscience d'avoir une passion. Parce qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas conscience d'être passionnés. Tu vois pas ce que tu fais. Aucune conscience. Ils sont passionnés. Ils n'ont aucun contrôle, un self-control sur eux-mêmes. Ils foncent. D'un gosse, c'est charmant. D'une personne plus âgée, c'est ennuyeux. Mais d'un gosse, c'est charmant de voir ça. Le gosse, il dit tout. Aucune attention. D'où vient que j'ai conscience de voir ? D'où vient que j'ai conscience de toucher ? Est-ce que je dois remonter jusqu'à mon intelligence pour avoir cette conscience ? Ou faut-il poser, inférer, donc poser, un certain sens commun ? Le vieil Aristote pose un sens commun pour unir les cinq sensations diverses et expliquer leur rapport. Comment puis-je passer de l'odorat au goût ? Comment puis-je passer, vous voyez, dans Proust, sur la Madeleine ? Comment puis-je passer de... Et chez les poètes, on voit ça constamment. Passer de telle sensation à telle autre sensation. C'est un fait. Il y a à la fois diversité absolue. Je vois la lumière. Je ne la touche pas. Je touche la chaleur de la lumière. Mais je ne touche pas la lumière. Je touche l'énergie de la lumière, mais pas la lumière. J'entends un son. Et au sens strict, je ne touche pas le mouvement. Je le touche par l'intermédiaire de l'ouïe, du son, de la voix. Donc il y a une diversité à l'intérieur des sensibles propres qui donne les cinq sensations dans leur diversité. Et cependant, il y a quelque chose de commun qui permet ces relations. Et je crois qu'il faut admettre qu'il ne faut pas remonter jusqu'à l'intelligence, qu'à l'intérieur même des cinq sensations, il y a quelque chose qui les unit. Ce qu'on appelle le sens commun. Voyez bien que ce sens commun d'Aristote n'est pas du tout ce que Descartes appelle comme sens commun. Et ce que nous appelons, nous, depuis Descartes, sens commun. Le sens commun, le bon sens. Le voir du bon sens. Vous savez bien. Père Garrigou-Lagrange parlait d'une métaphysique du bon sens. Ce qui ne signifie rien, ça ne fait rien. C'est une métaphysique du bon sens. Mais non, il n'y a pas de métaphysique du bon sens. Le sens commun, comme on l'appelle ordinairement, avoir du bon sens, c'est un peu prudent, pas faire de gaffe. Tandis que pour Aristote, le sens commun est posé réellement comme une puissance propre qui permet d'unir les différents sens, les différentes sensations, et d'en avoir conscience. Il y a une espèce de sens qui porte non plus sur les qualités, mais qui porte sur mes sensations. Et portant sur mes sensations, peut connaître toutes les sensations, parce qu'elles sont toutes des sensations. Et faire le lien entre elles, et avoir conscience de mes diverses sensations. C'est pas si bête, ça. C'est intéressant de savoir d'où vient cette conscience que j'ai de mes sensations. Le philosophe doit expliquer ça. Je peux très bien dire, je ne l'explique pas, je le constate, c'est fini. Non, non, il faut essayer de comprendre, d'aller plus loin, d'essayer de pénétrer plus avant dans ce que représente cette capacité que j'ai de connaître, que je sens. Je réfléchis sur mes sensations. Et uniquement cette analyse philosophique sur les sensations présuppose qu'il y a une certaine connaissance de nos sensations qui s'acquiert lentement mais qui est bonne. Être lucide de ce que représente l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe. Ah, c'est pas mauvais du tout. Être lucide de ça. Il faut donc être conscient. Avoir devant soi des gens qui ouvrent leurs yeux grands, qui vous regardent, et tu me regardes, ah non, je te regarde pas, je te regarde pas, alors qu'est-ce que tu fais d'avoir des yeux ouverts comme ça? Ils rêvent, un rêve éveillé, ils rêvent, il n'est pas conscient dans sa vision. Imaginaire qui l'emporte sur la vision, par le sens commun. S'il n'y avait pas le sens commun, je ne vois pas comment on pourrait l'emporter. C'est-à-dire que par le sens commun, on peut voir comment par le sens commun, qui est à la fois très riche, puisqu'il permet une unité à l'intérieur des cinq sensations, mais en même temps, le sens commun qui est interne, qui ne me fait pas toucher quelque chose d'extérieur, qui me fait toucher la sensation. Ce sens commun est immanent, parce qu'il n'a pas de lien avec l'univers. Il est immanent à l'homme. Et parce qu'il est immanent à l'homme, il va être très proche de l'imaginaire. Et l'imaginaire va jouer constamment sur lui. Et c'est en ce sens-là qu'il peut être dangereux, parce qu'il peut me couper. Donc il faut poser le sens commun, je crois que c'est nécessaire de le poser, pour ces trois raisons. Oui, il y a trois raisons. L'harmonie à l'intérieur des sensations. La conscience de chacune de ces sensations. Et l'influence imaginaire sur mes diverses sensations. L'imagination peut très bien me donner des hallucinations. L'hallucination, c'est lorsque je ne discerne plus d'être éveillé et de sentir discerner plus très bien si on tape à la porte ou si vous-même vous imaginez un son. Et vous vous précipitez à la porte, personne, si ce n'est un spectre, si autrement personne, ce sera encore votre imaginaire. Très curieux, la zone de l'imaginaire, par rapport aux sensations, par le sens commun. Alors, parallèlement, maintenant, je vais tout de suite entrer, parce que c'est bon de terminer en entrant dans un autre secteur. Parallèlement à cette connaissance sensible, alors, en plus de la connaissance sensible, mettez l'imaginaire et la mémoire. Comme l'imaginaire et la mémoire sont des amènes très immanents, qui sont dans le prolongement de la sensation et dans le prolongement du sens commun. C'est encore la connaissance sensible. C'est pas ma connaissance intellectuelle. L'imagination, c'est la première puissance sensible de synthèse. L'imagination fait des synthèses hâtives, qui ne sont pas du tout intellectuelles, qui sont purement sensibles, qui sont la faculté que j'ai de me représenter. C'est le domaine de la représentation, l'imaginaire et la mémoire, des représentations. Et un rêve éveillé, je me représente telle ou telle chose, je me laisse aller, vous voyez, à mes rêveries, c'est l'imagination ça. Oui.
Est-ce que c'est le sens commun qui fait que quelquefois on est présent à la sensation et d'autres fois pas?
Je crois. Je crois que le sens commun joue un rôle d'intermédiaire. Et d'autre part, les sensations peuvent, par le sens commun, mouvoir l'imagination. Oui. Ça c'est sûr. Mon imagination est une chose très curieuse, très difficile à comprendre, parce que c'est purement interne. C'est purement interne. Ça ne débouche sur rien. C'est le vécu psychique. Les psychanalystes sont très, très attentifs à tout le domaine imaginaire. Oui.
Est-ce que le sens commun, c'est la conscience?
C'est.
La conscience?
Non, c'est ce qui permet la conscience. Des sensations, mais ce n'est pas la conscience. La conscience n'est pas... La conscience, c'est le fruit d'une connaissance. J'ai conscience de ça. Vous voyez? Ce n'est pas une faculté spéciale, la conscience. Vous vous confondez peut-être avec la conscience morale. Oui. Il y a la conscience, on pourrait dire psychologique, et la conscience morale. Ce n'est pas la même chose. La conscience morale, vous avez conscience d'avoir bien agi. Dans votre examen de conscience, faites appel à votre conscience morale. Telle chose, je l'ai faite, j'ai dit cette parole, mais ça a pu blesser quelqu'un. Oui, conscience morale. Vous regardez tout de suite le bien et le mal. Tandis que dans la conscience, ici, d'ordre psychologique, qui n'est pas du tout morale, qui est une conscience vitale, j'aimerais presque me dire ça, au niveau de ma connaissance sensible, c'est une conscience de mon opération. Pas du caractère bon ou mauvais par rapport à moi. C'est une conscience que j'ai de mon opération. Oui.
La conscience, dans la mesure où je peux aussi avoir conscience de toucher que conscience de contempler.
La conscience accompagne normalement toute ma vie intellectuelle. Je dis normalement, parce que quelquefois vous êtes très fatigué, vous n'avez plus conscience. Normalement, vous avez conscience de toute votre vie intellectuelle. Normalement, vous avez conscience des rêves. Mais voyez la conscience du rêve. comme c'est curieux. Faites le plein air, vous savez plus où vous êtes. Vous n'avez même pas conscience d'être plein air. Tout d'un coup, vous réveillez. Ah, tiens. Oui. Donc, il faut faire attention à la conscience de l'imagination qui est très spéciale. Je dirais presque l'activité imaginative est là pour supprimer la conscience. Très souvent, surtout dans la mémoire, elle alourdit tellement qu'elle endormit. Espèce de chloroforme intérieure qui m'apaise, qui me fait. On est bien là, vous voyez. Surtout en susurrant quelque chose, un peu alcoolisé, alors on se laisse aller. On se laisse aller. Et c'est ça qu'on appelle une détente. Vous voyez, c'est pas une détente du tout, c'est une grande fatigue. Parce que c'est la fatigue de l'imaginaire. Il n'y a rien qui fatigue plus que l'imaginaire. C'est la folle du logis. Alors, elle est très fatigante. Quand elle bat des mains dans tous les sens, elle va dire, c'est effrayant. Vous savez plus où vous en êtes. Et comme vous n'avez pas de pouvoir direct dessus. Alors, vous voyez, il y a toute cette ligne de la connaissance sensible. Et parallèlement à la connaissance sensible, ça je voulais vous dire, il y a toute l'affectivité. L'affectivité sensible. L'affectivité sensible, c'est ce qu'on appelle les passions. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir le lien entre l'imaginaire et les passions. Et dans cette affectivité sensible, il faut voir le lien avec l'instinct. L'affectivité sensible, donc les passions, ne sont pas l'instinct. L'instinct est quelque chose de plus brutal que les passions. C'est plus radical. L'instinct est déterminé, autonome. Les passions, au contraire, grâce à l'imaginaire, ça va dans tous les sens. Donc, vous voyez, il faut analyser ma connaissance sensible, donc sens commun, imaginaire, imagination, mémoire. Cinq puissances pour mes sensations. Une pour les sensations, pour le sens commun. L'autre pour l'imaginaire. L'autre pour la mémoire. Vous avez quatre directions de tout ce monde sensible que nous portons en nous, de connaissances sensibles que nous portons en nous. Et vous avez... Alors ça, c'est le chef-d'œuvre. Vous avez 11 passions. Et votre psychisme, il est fait de ces liens des passions et de ces liens de l'imaginaire. Et des sensations de temps en temps. Et vous êtes comme ça pris par une sorte de somnolence imaginative, planeur. Il y a quelqu'un qui passe tout près de vous, qui laisse tomber quelque chose. Oui, Louis, vous remet tout de suite devant quelque chose de réel. Ou un flash devant les yeux, ça vous réveille. Si, non pas endormi, mais vous rêviez, c'est dans le rêve imaginatif. Donc mon psychisme immanent, il est fait de mes 11 passions. De mon imaginaire, de ma mémoire. Et c'est ça qui est intéressant à étudier, comme psychisme. Et il est fait de tout ça. Il y a là une richesse souterraine, immanente, très grande et en même temps terrible. C'est pas mon intelligence, c'est pas l'aspect de l'intelligence et l'amour spirituel. C'est l'amour passionnel, un amour un peu aveugle, c'est l'instinct. Mais l'instinct, fondamental pour la passion. Il n'est pas la passion. Voyez, l'instinct est à l'affectivité ce que les sensations sont à l'imaginaire. Les sensations me mettent en contact avec l'univers. L'instinct me met en contact avec un bien sensible immédiat. Tandis que les passions, je les porte en moi. Mais il y a quelque chose de réaliste dans l'instinct que vous n'avez plus du tout dans les passions. Vous voyez, voilà ce qu'on verra l'année prochaine au point de vue.